Salut, ça va ?
Bienvenue sur le podcast Salut, ça va ? By Take Care. Tous les 15 jours, on papote santé mentale, dev perso et surtout comment mener une vie ambitieuse en prenant soin de soi et des autres. Alors enfilez vos écouteurs, mettez-vous à l'aise et plongez avec moi dans une conversation qui, je l'espère, vous fera du bien. Si vous voulez aller encore plus loin, rendez-vous sur takecare.co pour découvrir nos coachings en ligne. Bonne écoute ! Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans un nouvel épisode du podcast Salut, ça va ? C'est un podcast en duo.
Salut tout le monde.
Ah, t'as fait un suspense.
C'était pour savoir qui était le deuxième du duo, quoi.
Ouais, on se demande. Bon, bah, si vous l'avez pas reconnu, c'est Samuel, donc mon cher et tendre mari. On a décidé de faire un épisode sur le couple, comme vous l'avez peut-être aperçu dans le titre. Mais alors, on est dans un état de maladie. Écoutez, on a attendu le dernier moment pour enregistrer cet épisode en espérant que ça aille mieux. Mais
ce qui n'est pas le cas, honnêtement.
C'est pas le cas. Voilà. Donc, écoutez, on fait avec les moyens du bord. C'est comme ça. En tout cas, on est très content de vous retrouver pour un nouvel épisode. C'est vrai que bah, cette saison, c'est des épisodes qui sont particulièrement solo, mais sur ce sujet-là, je trouvais ça intéressant d'avoir Samuel, parce que c'est vrai que les épisodes précédents qui ont été abordés autour du sujet du couple, c'était souvent soit moi en solo, soit celui qu'on avait fait à deux était vraiment axé sur la dépression, donc bah, je trouvais que c'était intéressant d'avoir peut-être un point de vue un peu plus global, précis et partagé, voilà, entre nous deux, puisque bah, on partage notre vie depuis maintenant 12 ans et nous sommes mariés depuis 6 ans. Du coup, aujourd'hui, on va parler de comment est-ce qu'on fait pour encore se supporter.
C'est un peu ça l'idée.
Au bout de 12 ans de couple. Souvent, c'est une question qui revient pas mal parce qu'on a des choix de couple qui sont peut-être un petit peu marginaux. Par rapport au reste de la société. Et c'est aussi une envie pour nous de normaliser le fait qu'il n'y a pas de règles en couple, que chaque couple a ses propres principes, ses propres limites, ses propres valeurs. Et l'important, c'est pas de savoir ce que font les autres et de copier-coller une forme de méthode. Vous savez, ici, on déteste les méthodes. Ce qui est important, c'est d'avoir des outils de communication, d'échange, et surtout de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on a envie de construire à deux, et comment est-ce qu'on peut faire vivre ces valeurs à travers notre histoire à deux, et aussi nos propres histoires individuelles, et que tout ça cohabite pour former une dynamique qui fait avancer, quoi, et qui nous rend heureux, finalement.
C'est ça.
Je pense que ce serait intéressant, justement, de parler de ces valeurs et de les définir, et à travers ces valeurs, comment elles illustrent dans notre couple et pourquoi c'est des piliers qui sont fondamentaux pour nous. Je pense que ça reprend les valeurs qu'on avait déterminées pour la cérémonie de notre mariage, puisqu'on s'était marié avec une cérémonie laïque qui consistait à se faire entourer nos deux mains jointes par des personnes proches de nous qui représentaient à chaque fois une valeur qui nous semblait fondamentale pour le couple. Est-ce que tu te souviens de ces valeurs ?
Absolument pas. Si, je me souviens quand même de quelques-unes. Je me souviens qu'il y avait l'humour,
ouais.
L'amitié, la communication, la famille.
Non, la loyauté.
La loyauté. Et il y avait un cinquième.
Ah bon ?
Non.
Je sais pas.
Ah bah toi aussi, tu sais plus, en fait.
En fait, je me souviens des personnes qui nous ont entouré les mains. Donc, il y avait Auréa qui représentait la loyauté, Loïc, l'amitié, ton père, l'humour, ma grand-mère, la communication. Et est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un d'autre ?
Pêcheur, s'il écoute l'épisode, il va se dire, c'est vraiment des gens terribles.
Je
crois
vu.
Pas.
Mais en tout cas, bon, c'est des valeurs qui sont, je pense, toujours actuelles, celles-là.
Ouais.
Je pense qu'on s'en souvient parce que c'est celles qui forment le socle vraiment de notre relation et des décisions.
C'est
comprend, etc. Je pense qu'aujourd'hui, si on fait l'exercice justement de se poser la question, quelles sont les valeurs qui consolident notre couple, enfin qui représentent notre couple et qui font vivre qui nous sommes, quoi, notre duo, notre dynamique, je pense que ces valeurs qu'on a établies au moment où on s'est mariés, elles sont toujours d'actualité.
Oui.
Peut-être qu'on ne les vit pas de la même façon.
Alors, elles sont toujours d'actualité, mais ce que moi j'ai remarqué au fur et à mesure des années, mettons depuis le mariage, tu vois, où on a établi que voilà, il y avait telle valeur qui était fondamentale pour notre couple, j'ai remarqué qu'en fait, effectivement, ces valeurs-là, elle nous permettait d'avoir une grille de lecture commune sur ce qui se passait, sur nos projets, sur nos ambitions, mais que moi j'avais compris en tout cas que on avait aussi des valeurs personnelles qui étaient différentes et que en fait le couple c'est aussi partager des valeurs et en même temps comprendre que l'autre a des valeurs différentes qu'il faut accepter, comprendre et accompagner aussi. Tu vois ce que je veux dire ou pas ?
Oui, je pense qu'il y a les valeurs communes qui nous lient et il y a celles qu'on vit individuellement et en fait ça c'est une des règles
Exactement.
Fondamentales dans notre couple. Notre couple ne doit pas exister au détriment de nos propres projets, de nos propres ambitions, de notre propre bien-être.
C'est ça, ça peut pas être un frein en fait.
Voilà, on n'est jamais à 50-50 en fait et ça c'est c'est une règle. Souvent, on entend le couple, tu sais, c'est vraiment ce truc où on est vraiment à deux par égal, qui vont dans la même direction, etc. Nous, notre vision du couple, c'est de justement pouvoir être un pilier ou un support, ou justement pouvoir se mettre en retrait quand c'est nécessaire, ou être un soutien quand c'est indispensable, de jauger en fonction justement, en partant de l'individualité, pour former une dynamique de couple. C'est-à-dire que parfois, on a des périodes de nos vies où on est plutôt à 30% et on a besoin que l'autre soit à 70%, assure, soit voilà, le référent, le pilier, celui sur lequel on peut se reposer quelque part. Et il y a d'autres moments où on a plus d'équilibre, en tout cas plus d'équité dans nos dynamiques, dans notre énergie, dans notre disponibilité. Et en fait, on essaye vraiment de communiquer. C'est là où, pour moi, la communication, tu sais, on dit tout le temps la communication, c'est la clé. Mais en fait, la communication, c'est la clé si ça se pratique. C'est-à-dire, comment on se parle, comment on se dit les choses, comment on se transmet ce qui se passe en nous, comment est-ce qu'on arrive à le verbaliser, comment est-ce qu'on peut trouver des solutions. C'est-à-dire, ok, je te communique que là, c'est difficile pour moi, ou là, je te communique que j'ai besoin de telle ou telle chose, de sécurité, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin, au contraire, d'espace, de liberté, d'espace, etc. Comment est-ce que l'autre s'adapte, comment l'autre reçoit cette information, c'est-à-dire, ne pas le prendre pour lui
pour
personnellement.
Lui, ne pas l'interpréter.
Voilà.
Moi, c'est un truc, tu vois, typiquement sur la communication, mon grand défi, c'est de ne pas interpréter et surinterpréter un message, tu vois, de... Par exemple, j'ai besoin de plus d'espace. Ça veut pas dire je ne veux pas te voir ou je ne veux pas qu'on interagisse. Ça veut juste dire moi là, je suis sur quelque chose et j'ai besoin d'aller au bout de ce truc et j'ai pas besoin de toi. Et en fait, faut entendre aussi que l'autre n'a pas forcément besoin. Et moi, des fois, j'ai pas besoin de toi et il y a des fois au contraire où j'ai vraiment besoin de toi. Et c'est important de savoir communiquer ces choses-là parce que, comme on disait, la communication c'est fondamental. C'est une communication qui doit être active, qui doit être positive et qui doit passer par déjà l'expression des émotions, des besoins. Et ensuite, formuler une demande claire, quoi. Et ça, c'est tout un travail qu'on fait depuis des années.
En fait, c'est vrai qu'à un moment donné, on a dû s'exercer et le faire de façon presque scolaire, presque jouée.
En exercice.
Voilà. Et j'avais fait un épisode sur le sujet, sur la communication dans le couple, que je vous mettrai en description de ce podcast, qui parle de tout ça, des outils qu'on a pu mettre en place. On a une charte de couple, par exemple, dans notre cuisine, qu'on a sous les yeux très régulièrement, et qui reprend de façon scolaire, c'est vrai, les fondamentaux qui, pour nous... sont la somme de ce qui fait la sainteté du couple, mais dans le sens, c'est sain, quoi.
Ouais, c'est quoi le mot pour sain ?
Je ne sais pas, à chaque fois je l'utilise dans ce côté.
La sanité.
Ah ouais ?
Ouais.
Bon, voilà, vous avez compris, quoi. Quand c'est sain.
Quand c'est sain.
Et parfois, quand on a des périodes plus difficiles dans notre couple, etc., ce qui est souvent le cas, on se réfère à cette base en se disant, OK, sur quel élément fondamental on a un peu déconné ces derniers temps, comment est-ce qu'on peut réajuster ? Et c'est un ajustement permanent. En fait, vraiment, la notion d'équilibre, que ce soit personnel ou que ce soit dans un couple, pour moi, c'est la métaphore de l'équilibriste. C'est-à-dire, vous êtes sans cesse en train de pencher d'un côté ou de l'autre pour garder le cap, avancer ensemble. Et vous devez, en plus, dans le cadre du couple, juger et jauger cette dynamique à deux. Donc, avec une part d'inconnu, même si au bout de quelques années, nous, plus d'une décennie, on commence à bien se connaître. On évolue tellement, on grandit tellement, surtout que nous on s'est connus très jeunes, ce qui fait qu'on n'a pas toujours tous les paramètres en notre possession, et c'est là où cette communication, quand elle se pratique, quand elle s'exerce, elle permet en fait de diminuer le temps de latence.
De prise de tête, de déconnexion en fait.
De déconnexion,
c'est
exactement.
C'est le moment où t'es plus en symbiose. Ce temps-là, il existe toujours, certes. Quand tu travailles sur ces façons de communiquer, sur ces façons de s'exprimer, ce temps, il est de plus en plus court et il fait de moins en moins mal aussi. Tu vois, parce que tu surinterprètes pas, parce que tu le prends pas pour toi, parce que tu fais pas un drama de quelque chose qui, à la base, est pas hyper important. Et t'arrives à mettre en perspective les choses, quoi.
Oui, en fait, je pense qu'il y a aussi une forme de sécurité qui se construit dans la relation. Et en fait, tu es en capacité de prendre du recul par rapport à la sécurité de ton couple. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de vivre ne remet pas en question notre amour, notre duo, notre histoire, etc. Mais simplement, à cet instant T, avec tous les paramètres qui sont à prendre en compte, personnels, au niveau de notre énergie, notre santé, qu'elle soit physique ou mentale, notre disponibilité, notre stress, etc. En prenant en compte tout ce qui est en train de se passer individuellement, on arrive à mieux être un soutien, mieux être un support, ou à mieux engager des actions actions qui vont permettre de retrouver une forme d'harmonie à deux, en fait. C'est vraiment en s'exerçant et en discutant de la façon dont vous vivez les choses et aussi de la façon dont c'est important pour vous que l'autre témoigne sa présence ou justement sa liberté, enfin en fonction de votre besoin, ou la sécurité, comment elle s'exprime pour vous, qu'est-ce qui vous fait du bien, quelles sont les attentions qui vous font du bien, en fonction notamment des langages de l'amour qui sont importants pour vous,
ouais.
pour lesquels vous êtes réceptif. Par exemple, je sais que moi, mon langage de l'amour, c'est pas forcément le côté tactile, le côté geste affectueux, ce côté-là. Ça va plutôt être dans les petites attentions du quotidien, des petites choses qui sont dans la démonstration de l'acte de
penser à toi,
de
en fait, d'avoir eu une petite attention envers toi. Et ça, c'est important parce que, tu vois, moi, ça, jusqu'au moment où tu me l'as exprimé clairement, j'en étais pas tout à fait conscient. Et du coup, le fait que toi, tu m'aies dit, mais tu sais, moi, je préfère qu'il y ait des petites attentions au quotidien, ou je vois de temps en temps un petit truc qui me fasse plaisir, ou juste un truc qui montre que t'as pensé à moi, que t'as voulu me faire plaisir, ça me touche beaucoup plus que si tu viens me faire un immense câlin pendant 3 heures, parce que moi, j'ai pas envie qu'on me touche pendant 3 heures. Et en fait, de l'avoir exprimé, ça m'a permis, moi, de m'adapter et d'adapter ma posture pour justement être dans l'expression de l'amour, parce que moi, j'ai besoin de t'exprimer mon amour, mais de la façon qui fait en sorte que toi, quand tu le reçoives, ça te fasse vraiment plaisir.
Ouais, complètement. Et puis, pour l'autre, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai essayé à chaque fois que je remarquais ces attentions-là, de les valoriser, de les souligner. Parce qu'on a souvent tendance à pointer le négatif. Le cerveau est un peu construit comme ça. Hein. On a beaucoup plus tendance à se souvenir de ce qui fait mal ou de ce qui n'est pas adapté ou de ce qui nous fait défaut. Enfin, voilà, on est câblé pour ça. Mais justement, s'entraîner au quotidien quand il y a des petites attentions, des petites choses, des petites démonstrations qui correspondent à ce que vous attendez de l'autre ou ce qui vous fait du bien et de les souligner. Par exemple, moi, c'était une bouillotte dans le lit le soir parce que je suis tout le temps frigorifiée. un coca qui m'attend quand je rentre du travail, sur le plan de travail. C'est des petites choses comme ça qui, pour moi, me remplissent d'amour. Alors là, il y a l'expression matérielle, mais il y a aussi plein d'autres choses qui se déroulent plutôt dans l'intime. Mais ces expressions-là, et le fait de les souligner, le fait de faire remarquer à l'autre que ça nous a touchés, c'est extrêmement important pour que l'autre puisse aussi comprendre les moyens de communication et les moyens d'expression de cet amour et de cette intimité,
quel
de cette complicité.
Quel canal privilégié, en fait. Quoi.
C'est ça, parce qu'on attend souvent de l'autre qu'il devine, en fait, nos besoins. On va avoir une attitude renfermée parce qu'on est blessé de quelque chose, etc. Mais c'est tellement plus facile d'avancer quand il y a une expression, une reconnaissance, une définition, en fait, qui est posée sur des moments, sur des mots, sur des actes qui nous correspondent, qui nous font du bien, qui sont attendus, qui font plaisir, etc., que d'être dans cette interprétation qui est infinie, parce qu'en fait, on ne peut pas attendre de l'autre qui devine nos besoins.
Et puis, tu vois, moi, c'est vrai que c'est un truc dans lequel je me suis souvent retrouvé, surtout au démarrage, de me dire putain, c'est fou, elle comprend pas que là, j'ai besoin de ça. Mais en fait, comment veux-tu si moi, j'exprime rien, parce qu'il y a une phase où quand même, j'exprimais vraiment zéro émotion et zéro besoin, et du coup, j'attendais tout le temps que tu comprennes par toi-même, comme si t'étais une enquêtrice. Alors, t'es une très bonne enquêtrice quand il faut, mais non, mais sérieux, il y a vraiment ce truc de tu sais, des moments où toi, en plus, ça te met en colère. Tu te dis, mais elle s'en fout de moi, en fait, parce qu'elle comprend pas, ça l'intéresse pas. Mais en fait, non, juste, t'as pas exprimé ton besoin.
Ouais, et puis, en fait, c'est tellement facile d'interpréter mal, de mal juger, d'être dans une forme de rumination, parce qu'on a l'impression que tout est tourné contre soi. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des désaccords, des quiproquos et ce manque de communication qui fait que les situations qui peuvent être réglées de façon simple et directe, calme, etc., deviennent des sujets du quotidien qu'on enfouit parce qu'on a du mal en plus à se confronter à ce conflit-là. Et ça ressort parfois de façon complètement explosive et dans des situations qui sont du coup beaucoup plus difficiles à gérer. Donc ça, c'est un truc qu'on a vraiment travaillé au fil des années, c'est de ne pas laisser les situations s'installer, de désamorcer le plus facilement et le plus rapidement possible, le plus directement possible. Mais c'est ok aussi, en fonction des personnalités, de comment vous vivez ces situations, de dire à l'autre, là j'ai besoin de 15 minutes, écoute, je suis pas prête à parler tout de suite, j'ai besoin de redescendre, ça sert à rien de
là,
dire les choses sous le coup de l'émotion.
Si on se met à parler de ça maintenant, on part dans le mur, je vais m'événère, c'est sûr. Donc laisse-moi le temps d'aller boire un café, d'aller me poser, d'aller chiller 20 minutes, et après on le reprend.
D'accepter aussi en fait que l'autre soit pas tout de suite en capacité d'exprimer, de verbaliser, de poser des mots sur ce qu'il ressent, etc. Parce que c'est un exercice qui est difficile, surtout quand on n'y est pas habitué. Donc de se laisser le temps, hein, l'idée c'est pas de forcer les choses, il faut vraiment vous écouter. Mais même dans ces curseurs-là qui sont personnels, communiquer sur le fait que ben, vous n'êtes pas toujours au même stade et vous n'êtes pas toujours prêt à entamer la discussion au même moment et de la même façon, dans les mêmes dispositions, etc. Donc ça, c'est vraiment une valeur qui est fondamentale.
Et au contraire, juste pour compléter, il y a aussi des moments où ça va être hyper, hyper simple de désamorcer un truc, souvent par l'humour aussi. Moi, je remarque que le fait d'avoir tellement travaillé ça et tout, et de savoir comment on peut réagir dans une situation conflictuelle ou potentiellement conflictuelle, ça nous amène aussi à avoir l'expérience de se regarder des fois sur un truc où, par exemple, moi, je monte un peu dans les tours sur un truc, ou toi, l'inverse, et juste par un regard, par un petit sourire, t'arrives à te dire « Ouah, putain, j'abuse tellement !» et de juste rigoler, désamorcer tout de suite. Et ça, c'est un truc, il y a quelques années, moi, j'en étais incapable de passer par l'humour pour complètement faire éclater ce ballon qui a gonflé pendant 20 minutes ou une heure ou deux jours, et juste de dire « Mais attends, tu déconnes, là ou... ?»
Je pense qu'il y a un gros travail qui a été fait sur l'ego, en fait.
Ouais, tout à
fait. Il y a nos égos personnels, ça a été un tel travail, pour le coup, je pense même individuel, qui a permis à un moment donné, justement, et c'est pour ça, t'enchaînes très bien sur la deuxième valeur dont on a parlé, l'humour. L'humour, c'est un outil qui est merveilleux quand... on parle pas de la moquerie, attention, hein, parce que le second degré, etc., ça peut vite tourner sur des façons, justement, pas du tout affirmées de communiquer ses besoins, et
ça
voilà.
Ça peut être hyper toxique, en fait.
Ouais, c'est le côté je fais passer toutes les remarques par l'humour, bon, non, mais par contre, justement, comme outil de désamorçage, c'est un nouveau mot.
On apprend plein de mots aujourd'hui.
Ouais, c'est le Larousse. Non, mais de désamorcer par l'humour, tu vois, par l'ironie, et parfois, juste en disant, punaise, mais là, on se prend la tête vraiment pour des conneries, et ça permet, hop, de switcher sur un autre mode, parce qu'on n'a pas besoin tout le temps d'avoir des explications pour tout. Des fois, il y a des trucs du quotidien, des tâches du quotidien, etc., on va pas se poser deux heures à discuter de pourquoi la poubelle, on s'est pas compris, je t'avais demandé de la sortir ce matin. Bon, mais par contre, passer par l'humour, une petite phrase, un petit truc, si c'est dans votre nature, hein, nous, on vous parle bien sûr des valeurs qui sont chères à notre couple, mais encore une fois, il n'y a pas de règles, c'est vraiment vos propres valeurs, vos propres lignes directrices, c'est votre histoire. Mais nous, c'est vrai que c'est un outil qui nous aide beaucoup, et en fait, en travaillant sur l'ego et sur le fait de justement prendre un peu de recul sur la situation et de se dire, attends là, mais est-ce qu'on en fait pas un peu trop, et individuellement se dire, bon, allez, stop, on lance un petit clin d'œil à l'autre pour dire, bon, c'est bon.
Des fois, moi, par exemple, c'est vrai que dans ce genre de situation, j'aurais tendance à, tu sais, à me mettre à te sourire, à rigoler, ou à nous jeter sur le lit en mode, bon, allez, c'est bon, on rigole, on arrête de se prendre la tête sur un truc. Des fois, ça part vraiment en vrille, genre on se jette du liquide vaisselle dessus, on se balance un verre d'eau, mais c'est vraiment
enfant.
Quand c'est bon enfant, quand c'est pour rire et que tu comprends que c'est pour rire, on se court l'un derrière l'autre dans toute la maison pour se faire des chatouilles, ce genre de truc.
Oui, parce qu'après, nous, on est un peu des deux gosses.
Ça le problème.
On a ce truc-là de la complicité et de l'amitié, et c'est pour ça que ça enchaîne très bien avec une autre valeur qui est fondamentale pour nous, c'est l'amitié qui nous porte l'un l'autre, vraiment cette vulnérabilité. Qui est totalement ok, en fait. Je pense que personne au monde ne nous connaît mieux que nous-mêmes. On n'a plus de tabou du tout entre nous. On a une vraie forme de vulnérabilité. Et dans les amitiés, pour moi, qui sont les plus profondes et sincères, on en a parlé dans l'épisode précédent, c'est les amitiés qui vous permettent d'être vous-même avec vos parts d'ombre. Et que ces parts d'ombre, elles soient complètement...
Bienvenue.
Ouais, bienvenue. Et acceptées,
accueillies,
et qu'on vous aime dans votre entièreté, quoi. Et pour moi, c'est ça, l'amitié aussi, comment elle se traduit dans le couple, c'est à la fois cette complicité, cette envie de passer du temps ensemble, mais aussi cette possibilité d'être complètement soi, en fait, avec l'autre.
De pas avoir de masque, en fait.
Ouais.
De pas avoir de masque qu'on peut mettre. On met tous des masques, hein, de toute façon, au boulot, quand on va voir notre famille, on adapte tous notre posture au public avec qui on est et aux gens avec qui on échange. Et je pense que quand t'arrives à pas du tout avoir besoin d'adapter ta posture dans ton couple, être 100% toi, c'est presque un sujet de philo, mais je veux dire, à avoir le sentiment d'être 100% de toi et de pas avoir besoin de cacher justement ces pardons, de cacher les doutes que tu as, de cacher les peurs que tu as, parce qu'en fait souvent on a peur de choses et on le dit pas aux autres. Et dans le couple, si t'arrives à exprimer tout ça, je pense que t'atteins un certain degré d'intimité qui est inatteignable dans d'autres relations.
C'est normal que ça se construise, en fait, cette possibilité d'être vulnérable, et que ce soit un chemin d'abord personnel. Moi, c'était le cas vraiment il y a vraiment quelques années, c'était impossible pour moi même d'être de me dire ah, je suis fragile devant Samuel ou je veux pas pleurer, je veux pas être vulnérable. Voilà, c'était très compliqué sur pas mal de sujets et moi c'est la thérapie qui a beaucoup fait évoluer les choses et aussi tout mon intérêt pour le développement personnel dans le sens introspectif du terme et de me poser la question de ok, qu'est-ce qui se passe en moi à ce moment-là, quelles sont mes pensées, est-ce que je vais penser qui va interpréter que je suis faible ou que je suis pas quelqu'un de solide ou que peu importe la façon dont ça se traduit en soi, mais ça peut partir, ça part souvent d'ailleurs, d'un chemin individuel pour ensuite se dire je me sens suffisamment sécure dans cette relation pour être vulnérable, parce qu'en fait il y a cette notion de sécurité, c'est-à-dire qu'on a tellement associé la vulnérabilité à de la fragilité alors que la vulnérabilité peut être vraiment une force incroyable et on aura l'occasion d'en reparler dans un épisode, mais vraiment quand on associe cette ouverture cette vulnérabilité face à celui qu'on aime et avec qui on se sent suffisamment en sécurité pour le faire, il y a en effet cette intimité qui s'exprime et qui se traduit et qui est vraiment belle et c'est à ce moment-là je trouve qu'on peut avoir aussi beaucoup de discussions très profondes et sincères, donc ça c'est quelque chose qui est très important et je pense que dans cette valeur de l'amitié il y a autre chose qui se traduit, c'est notre liberté individuelle.
Oui.
Les vraies amitiés c'est pas celle forcément où vous êtes tout le temps ensemble H24 où vous devez faire exactement pareil que l'autre, vos différences elles sont...
On doit tout aimer pareil, on doit tout...
Ouais, non, c'est voilà, vraiment... c'est pas notre vision nous de l'amitié, c'est pas notre vision de l'amitié dans le couple non plus, elle se traduit par aussi cette singularité, cette individualité et le fait que c'est ok de pas aimer les mêmes choses,
ouais.
De pas avoir les passions.
Accepter la différence de l'autre en fait et l'accueillir comme une force plus que un frein dans notre propre vie, et ça encore une fois ça passe par lâcher beaucoup d'ego, de se dire oui on n'a pas forcément, par exemple l'exemple typique toi et moi c'est les destinations de vacances. On est aux antipodes en termes de qu'est-ce qu'on aimerait faire. Tu me dis moi demain tu peux partir 10 jours, je te dis j'ai envie d'aller en montagne, dans le froid, dans la neige, tu vois. Léa, toi c'est plus souvent soit des choses vachement culturelles, des capitales européennes où on peut visiter plein de trucs et tout, soit des choses vachement plus détentes avec des belles plages, des trucs sympas, et en fait au début tu sais c'est un peu conflictuel pour moi, c'était un peu conflictuel de me dire du coup on va jamais partir en vacances et être 100% heureux, tu vois. Et en fait non, juste on partage une amitié ensemble qui fait que on va prendre plaisir à partir faire quelque chose que l'autre adore, et en échange il y a cette réciprocité qui fait que tu sais qu'un jour il y aura un retour aussi où on prendra plaisir à partir faire quelque chose avec toi, pour toi aussi, tu vois. Il y a vraiment ce côté d'échange et ce côté de on sait qu'il y a une réciprocité dans la volonté de faire plaisir à l'autre et d'accueillir l'autre dans son individualité.
Ouais, tout à fait, je suis complètement d'accord avec toi. Et puis il y a aussi cette liberté individuelle de se dire en fait c'est pas parce qu'on n'est pas tout le temps ensemble qu'on peut pas faire vivre notre amour. On s'est complètement détaché de cette injonction là et c'est ok totalement pour nous de partir seul, c'est ok de partir seul individuellement avec notre
avec
enfant, c'est ok parfois de partir tous les deux, et de s'adapter aux destinations de l'autre et de petit à petit se construire aussi notre idéal avec des compromis qui nous satisfait tous les deux.
Qui nous satisfont tous les deux. Et puis en fait, quand tu pars du principe qu'on est ensemble, on est une équipe, on est des amis et on s'aime, en fait, t'as pas l'impression d'être pénalisé, t'as plutôt l'impression de faire en sorte que l'équipe en globalité soit épanouie et heureuse, quoi.
Oui, complètement. Et ça permet aussi de pouvoir exprimer ses besoins individuels sans avoir peur que l'autre soit dans l'interprétation ou se sentir coupable de se dire « Ah, j'ai des envies, j'ai des besoins différents de lui, donc du coup, je vais forcément devoir soit moi m'adapter, soit lui demander de faire une concession qu'il n'a pas envie de faire. » Donc c'est d'accepter aussi ces différences-là et de les vivre pleinement et d'avoir plein de choses à se raconter aussi et voilà, de trouver l'opportunité à travers ces différences et comment est-ce que nous on les vit au quotidien. Ça fait partie clairement de la valeur de l'amitié qui est très forte pour nous. Je pense qu'il y a une valeur de liberté aussi qu'on n'a pas forcément identifiée à ce moment-là mais qui s'inscrit fortement dans notre couple. Ça va avec tout ce dont on a parlé. Ça va aussi avec l'idée de pouvoir avoir nos propres règles. Par exemple, on dort pas ensemble, on fait chambre séparée depuis Gaspard, je pense.
Ouais, depuis 5-6 ans.
Parce que ça a commencé avec le fait que j'allaitais Gaspard, donc on faisait du coup au dodo, toi tu prenais le relais le matin, etc. Donc c'est vrai que ça a été naturellement induit, quoi. Et puis ça a continué parce qu'on était beaucoup plus à l'aise avec la qualité de sommeil que nous permettait le fait de dormir séparés. Et donc toutes ces petites choses, le fait de partir seul en vacances, de dormir séparés, il y a des soirées qu'on fait vraiment individuellement individuellement de nos côtés, on n'a aucun problème à faire ça, et de vivre en fait ces règles-là, loin des injonctions, de ce qu'on pourrait penser, de ce que les autres attendent de nous en tant que couple.
L'image qu'ont les autres de toi-même.
Ouais,
en fait.
Complètement. Et de se détacher de ça, en fait, ça c'est une très grande forme de liberté et de... Ouais,
de lâcher prise.
De lâcher prise, ouais, complètement.
Tout à fait.
Et qui est essentielle pour
nous. Qui est vital pour nous maintenant, aujourd'hui. Je ne verrai jamais passer sur un mode beaucoup plus...
Restrictif,
ouais.
Rigide.
C'est rigide, en fait, parce qu'on passe plein de moments ensemble et on prend vraiment du plaisir, là, tu vois. Par exemple, cette semaine, on se bute à la Starac. On adore regarder la Starac ensemble et tout. En même temps... Bah, on est aussi content, une fois que notre replay de la Starac est terminé, de se dire « Allez, bonne nuit, et toi, tu regardes ta série, moi, je regarde ma série, où je vais jouer, machin, et on va se reposer, on va se coucher après. » Et c'est tout à fait OK, tu vois, d'avoir des moments où on est ensemble, des moments où on prend du plaisir, vraiment pur plaisir, à regarder un truc ensemble, ou à bouquiner ensemble, à parler ensemble, et après, de se dire « Bon, bah, bonne nuit », et juste d'aller chiller chacun de son côté aussi, quoi.
Ouais, complètement. C'est-à-dire que l'un n'est pas indissociable de l'autre. Je pense qu'il est extrêmement important de se rappeler qu'il n'y a pas de règles et que vous n'avez pas à obéir aux injonctions des autres, à ce qu'on attend de vous, que ce soit individuellement ou dans votre couple. Vous avez le droit d'écrire votre histoire comme vous l'entendez, avec vos propres règles, et surtout, que ces règles-là, elles évoluent, en fait.
Ouais.
Ne soyez pas dans une certaine forme de rigidité parce que vous pensez que c'est ce qui est bon pour vous, parce qu'on vous a toujours dit que c'était ça qui devait être la définition du couple.
Il n'y a pas de manuel, en fait.
Il n'y a pas de manuel. Vous avez le droit d'écrire votre propre définition de ce qu'est l'amour pour vous, de ce qu'est le couple pour vous. Ça s'inscrit vraiment dans cet exercice de faire évoluer petit à petit vos propres règles, vos propres définitions et vos propres valeurs, en fait. C'est OK de se poser parfois et de regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce qui se passe dans votre dynamique de couple, familial, etc. Et de se dire, là, peut-être qu'on a besoin de réajuster les curseurs. Il n'y a pas forcément de 50-50 en permanence. Encore une fois, on le rappelle, mais l'équilibre, c'est un ajustement permanent, c'est une adaptation permanente. Et voilà, ça fluctue, en fait. Le côté c'est beau, c'est parfait parce que justement c'est plat et c'est dans le sens tout se passe toujours bien, il n'y a surtout pas d'émotions désagréables, il n'y a surtout pas de désaccord, etc. C'est une illusion que je trouve toxique. Nous, on s'engueule beaucoup, on n'est pas d'accord sur plein de choses, on a beaucoup d'émotions parfois très désagréables, on les exprime, pas toujours de la bonne façon, pas toujours comme il faudrait, mais on est sans cesse
en travail, quoi.
Ouais, en travail. On avance, en fait. Il y a vraiment cette notion de le couple pour nous, et je pense qu'on terminera là-dessus, le couple pour nous, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que ça doit être un plus dans notre vie.
C'est ça.
On se concentre d'abord sur notre bonheur presque individuel, bien sûr, même si aujourd'hui, vu qu'on est une dynamique de famille, notre fils passe avant tout, ses besoins, etc. C'est extrêmement important. Et ensuite... Le couple, ça doit être un plus. C'est pour nous, c'est cette vision-là.
C'est ça, c'est un bonus de carburant pour votre propre véhicule, quoi, tu vois.
Ouais, et ça veut pas dire que ça vaut le coup de tout laisser tomber quand ça va pas, hein, pas du tout, mais les moments qu'on passe ensemble, etc., on a envie que ce soit du kiff, que ce soit du plaisir, comme vous allez prendre plaisir à avoir un bon pote autour d'un café, à partager un moment sympa, etc. Bien sûr, la réalité de la vie vous rattrape et vous avez le quotidien à gérer, etc., on est bien d'accord. Mais d'avoir cette vision-là et de se réserver des moments qui sont justement autour de ces valeurs d'amitié, de quelque part même de fraternité, de ce côté bon enfant, de ce côté plaisir, en fait, de ramener de la joie, de l'humour, des moments légers, etc. Ça permet d'aborder, je trouve, le quotidien.
Ça permet ça booste et ça accompagne le quotidien qui est parfois difficile aussi individuellement, et c'est une ressource. J'ai pas envie de dire comme une autre, parce que c'est précieux, tu vois, mais c'est une ressource qui nous aide pour le reste, pour moi. C'est pas un fondement, c'est pas une fondation de ce qu'est ma vie aujourd'hui, c'est plutôt une ressource que j'utilise avec plus ou moins d'intérêt par moment et plus ou moins d'importance par moment aussi, enfin, dans le sens où je vais avoir des fois beaucoup besoin de notre couple, et des fois je vais avoir moins besoin de notre couple parce que je vais être plus confiant dans ce que je fais, je vais être plus déterminé, et il y a des moments où, au contraire, je vais avoir très peur, je vais être très anxieux, et là je vais dire attends, là j'ai vraiment besoin de toi, tu vois.
Ouais, tu te raccroches à... En fait, c'est comme cette histoire de d'héliport avec vraiment le côté je viens me poser, je reprends du carburant et après je suis prêt à voler mes propres ailes pour aussi avancer individuellement.
C'est
et parfois
ça.
On a des moments où on a juste besoin de se retrouver, d'avancer ensemble, de construire, et il faut laisser ces temps, en fait, exister.
Sans mettre de pression, en fait.
Ouais, vous avez avez vraiment la possibilité de d'écrire l'histoire comme elle vous correspond, quoi, comme elle vous fait du bien. Et nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on vit la nôtre, et on est très contents et très heureux d'avoir à la fois cette fusion et en même temps cette totale liberté et cette confiance infaillible. Quelque part.
Ouais. C'est un beau mot de fin, je pense.
Voilà un petit peu pour cet épisode autour du couple et autour de ce qui nous permet, nous, de construire justement cette histoire qui dure depuis maintenant 12 ans et qui, j'espère, durera encore pendant très longtemps. J'espère que ça vous aura peut-être inspiré, peut-être donné envie d'entamer des discussions, qu'elles soient individuelles ou à deux. Voilà, je serais ravie de discuter de tout ça par message, toujours sur TakeCare ou en DM sur Insta. Voilà, merci pour votre fidélité. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci Sam.
Salut, merci.
Et à très bientôt. Ciao, ciao.
Ciao.
Un grand merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser une petite note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et n'oubliez pas, si vous voulez aller encore plus loin, nos coachings en ligne vous attendent sur takecare.co. Prenez soin de vous. À très vite.